Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Quartier Interdit. Aujourd'hui, nous recevons Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Les conditions déplorables de détention dans de nombreux établissements français sont dénoncées depuis de nombreuses années. Surpopulation, insalubrité, problèmes d'hygiène et d'accès aux soins, violence. À ce jour, 35 établissements pénitentiaires ont été considérés par la justice française comme exposant les personnes détenues à des traitements inhumains ou dégradants, selon l'OIP, l'Observatoire international des prisons. La France a été condamnée 19 fois par la Cour européenne des droits humains. Pour décrypter cette situation critique, nous recevons Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, une autorité indépendante qui veille à faire respecter les droits des personnes enfermées. Bonjour Dominique Simoneau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Avant d'être contrôleuse des lieux de privation de liberté, vous avez été éducatrice pénitentiaire. En quoi consistait ce travail ?
C'était un travail qui perdure. C'était il y a bien longtemps. Il consiste à s'assurer, contrôler et aider les personnes qui sortent de prison, celles qui sont condamnées à un travail d'intérêt général, à un sursis probatoire, celles qui sortent en aménagement de peine, celles qui sortent en libération conditionnelle. C'est à suivre ces gens pour, je vais dire un mot un peu chrétien, les remettre dans le droit chemin, n'est-ce pas ? Mais contrôler qu'ils règlent bien l'argent dû aux parties civiles, qu'ils doivent, contrôler qu'ils travaillent, qu'ils recherchent un boulot au moins, qu'ils font un stage, qu'ils font tous les efforts pour se réinsérer. Et puis, ça consiste aussi à aller voir les gens qui sont retombés, ceux qu'on avait sous contrôle en prison. Et puis, ça consiste également à assister aux audiences de comparution immédiate où passent les gens qu'on suit et qui sont retombés, hélas.
Et ces personnes-là, vous les suivez pendant combien de temps ? Après leur sortie de prison ?
Le sursis probatoire, il peut durer 3 ans, pendant 3 ans. Mais tout dépend, hein, une conditionnelle, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Et puis je dirais, de mon temps, comme diraient les vieilles choses, on suivait les gens même après que la mesure soit terminée. On continuait, on avait nos habitués.
Suite à cela, vous devenez chroniqueuse judiciaire pour le quotidien Libération. Dans une rubrique que vous avez vous-même créée en 1998, Carnet de justice, puis pour le Canard enchaîné dans la rubrique Coup de barre, vous écrivez sur les sans-papiers, les sans-logis, vous documentez la vie des prisons et déjà vous dénoncez la situation désastreuse des gens qui sont réduits au silence. Pourquoi vous avez choisi de travailler sur ces thèmes ?
Parce que après avoir fait des études de droit, je me suis rendu compte que c'est banal ce que je veux dire, je déteste l'injustice. Et je supporte très mal, mais enfin, je crois que c'est le cas de tout le monde, hein, de voir des gens dormir par terre dans la rue. Ne pas avoir de toit, c'est un drame épouvantable. Hein. D'ailleurs, chacun de nous peut-être a pu s'en rendre compte une fois dans sa vie, mais quand c'est sa vie, ne pas avoir de logis, c'est horrible. Donc je me suis rapprochée d'une association comme le DAL, qui réquisitionne des logements vides. Au cours de mes études de droit, j'avais vu défiler aux comparutions immédiates des tas de prévenus, je m'étais rendu compte qu'il y avait un énorme abîme entre ce qu'on apprend dans les manuels de droit, la sérénité de la justice, le régime de la preuve, le doute qui profite à l'accusé ou au prévenu. Tout ça a été englouti sous la vitesse, l'ultra-rapidité des comparutions immédiates. Moi, je suis arrivée aux comparutions immédiates à une époque où il y avait quand même des présidents. Je me souviens d'un président qui devait avoir 3 ou 4 dentiers, je pense, parce qu'il les faisait claquer pendant l'audience. Il disait « Alors, mon bon Mohamed, comme ça, quand on fait des rêves, on s'installe dans une voiture, on rêve, puis on arrache les fils de l'autoradio. » Parce qu'à l'époque, il y avait des autoradios dans les voitures. Il disait « Mon bon Mohamed, le tribunal, lui, n'arrache rien du tout quand il dort. » On retrouve parfois de ces magistrats un peu, disons, pour être sympa, fantasques, hein, mais enfin assez épouvantables. J'en ai retrouvé parfois au cours de mes pérégrinations quand j'écrivais sur les comparutions immédiates dans les journaux. Et le dernier que j'ai vu, c'était un procureur qui, s'adressant à un gilet jaune ivrogne qui avait été pris dans une manif, il lui a dit, pendant son réquisitoire, il a crié « Monsieur, monsieur, c'est du vide ». Monsieur, c'est rien. Je me suis dit, ouah, quand même, il faut du culot pour dire ça. Hein. Et je vous assure, il faut le cœur bien accroché pour l'entendre. D'ailleurs, l'avocate du prévenu s'est mise à pleurer.
Est-ce que c'est possible d'expliquer un peu ce que c'est cette comparution immédiate et en quoi, enfin, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles les prisons sont surpeuplées?
La compa, comme on dit, c'est, oui, ou les flags, comme on les appelait dans le temps, sont les principaux pourvoyeurs de cellules. C'est eux qui remplissent les cellules. C'est une justice ultra rapide. Vous êtes arrêté, vous avez commis un délit, vous êtes arrêté. Ou la clameur publique vous désigne comme vous êtes en flagrant délit, comme l'auteur, et vous êtes donc placé en garde à vue, déféré devant le procureur, qui choisit comme voie de procédure de vous envoyer en comparution immédiate. Ça veut dire que vous allez être jugé dans la foulée de votre garde à vue, 24 heures ou 48 heures après. 96 pour les stupes. Pendant ce temps, en garde à vue, vous allez voir un médecin, si besoin est, qui va examiner votre état physique et psychique. Je dis tout de suite qu'il y a des médecins qui appellent leurs confrères à ne pas se rendre en garde à vue pour l'examen psychique, parce qu'ils disent que c'est trop rapide, c'est pas une expertise, et ça va décider si vous êtes apte ou non à comparaître. Donc moi j'ai déjà vu des magistrats dire, face à un prévenu, dire « Monsieur, on vous a déclaré apte, le médecin, l'expert vous a déclaré apte à comparaître et apte à recevoir une sanction pénale ». C'est pas tout à fait mon avis, donc je vais ordonner une expertise plus sérieuse. Mais en attendant, vous allez aller en prison, et c'est 2 mois de prison. Voilà. Bon, ensuite, vous êtes donc le procureur choisit cette voie de la comparution immédiate, ce qui veut dire, dans la majorité des cas, l'immense majorité qui veut vous faire envoyer en prison. Il va requérir de la prison ferme à l'audience. Et ensuite, vous attendez dans les geôles du palais de justice, où vous êtes transféré après la garde à vue. Vous voyez votre avocat, là, dans les geôles, l'avocat commis d'office, ou l'avocat choisi, mais la plupart du temps commis d'office. L'immense majorité des gens qui défilent en comparution immédiate sont des pauvres. Donc on vous dit, il y a beaucoup d'étrangers. Oui, comme au début du XXe siècle, j'ai retrouvé des chroniques judiciaires datant des années 30, 1930, 40, 50, 60, 70. Ce sont des prolos, des prolétaires qui défilent. Et aujourd'hui encore, les prolétaires sont beaucoup les étrangers. C'est la pauvreté qui vous envoie là-dedans. Ou la vie en marge, la vie dans les cités, la vie en marge de la société bien née, mieux née. Et ensuite, vous êtes jugé et défendu par un avocat commis d'office. Donc c'est la loterie totale, selon que vous tombez sur un juge plus ou moins... concerné par la comparution immédiate, qui se dit « bon, je vais tempérer un peu la violence de cette procédure. » Si vous tombez sur un avocat excellent ou très mauvais, c'est cette loterie-là. Alors, je sais que quand il y a un avocat très mauvais, les juges me racontent qu'ils tempèrent un peu la peine. Je sais que les avocats me disent aussi « on a l'impression de servir à rien là-dedans ». Je ne crois pas qu'ils servent à rien. Je crois qu'ils peuvent servir à beaucoup, justement. Sans parler des gens qui jugeaient trop vite, c'est-à-dire mal jugés. Et ça aussi, c'est une erreur judiciaire de mal juger. Sans parler de quelques innocents qui font dommages collatéraux des comparutions immédiates. Et j'en ai vu. Et je peux vous parler d'un homme sans papier, sans logis, avec des dreadlocks, africain, qui a été dénoncé par une jeune femme pour des atteintes sexuelles. C'était le début. Il n'y avait pas encore MeToo, mais disons que ça n'a pas fait un pli. Il a beau dire « c'est pas moi ». Elle l'avait reconnu sur des photos qui lui avaient été montrées. Et elle a refusé de comparaître à l'audience en raison de son traumatisme. Puisqu'il lui avait dit « les seins et le sexe dans mon pays, on va te les couper ». Trop traumatisé. Il a pris 2 ans ferme, il avait beau répéter « c'est pas moi ». Mais monsieur... quel intérêt aurait-elle à vous accuser? Mais monsieur, c'est ça, monsieur. Même son avocat ne l'a pas cru. Et puis cette jeune femme, elle a eu un courage que je trouve extraordinaire. Elle s'est dénoncée. Au bout de 6 mois, elle a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que le type a pris 2 ans. Et elle est allée voir son avocate, qui l'avait représentée à l'audience. Elle lui a dit, j'ai tout inventé. J'avais été victime d'une agression quand j'avais 13 ans. Mes parents s'en sont fichus. J'avais besoin qu'on me reconnaisse dans mon statut de victime et j'ai inventé ça. La peine a été suspendue, il y a eu enquête, il a été innocenté, malheureusement, à Fresnes, à force de répéter « je suis innocent », ouais, c'est ça, ici, avec des innocents. Il a fait 2 AVC et un 3e 3 mois après sa sortie, qui lui a été fatal. C'est une sœur qui m'a horriblement marquée. Je me suis dit, ça représente tous les travers de notre société. Et je vais peut-être vous choquer, sans doute, parce que vous êtes une jeune femme, je suis sûre que... Peut-être que vous pensez qu'on te croit, les banderoles qu'on voit partout, on te croit. Je trouve ça très bien. Oui, on te croit, mais moi, je ne suis pas d'accord, on ne te croit pas toujours, non. Et quand on me dit que dans le mouvement MeToo, c'est une révolution nécessaire, et ça, j'en suis bien d'accord, mais elle crée des dommages collatéraux, et les dommages collatéraux dont on parle, c'est parfois des années de prison, ou des mois de prison pour des gens qui n'ont rien fait. Et moi, là, je ne suis pas d'accord. Ou des gens qui sont affichés sur la place publique, comme des violeurs ou des agresseurs, je ne suis pas d'accord. Dommages collatéraux, c'est un terme que je refuse d'entendre en ce qui concerne la justice ou la prison.
En 2020, vous êtes proposée par le président Emmanuel Macron pour occuper le poste de contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Vous n'avez pas postulé pour ce poste, vous n'avez pas envoyé de candidature. Et quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit qu'il y avait toute votre vie dans ce travail. Est-ce qu'en acceptant cette mission qui dure 6 ans, c'est ça ?
Oui.
Est-ce que vous aviez l'espoir de faire bouger les lignes ?
J'ai toujours l'espoir. Bien sûr que j'ai l'espoir de faire bouger les lignes. D'ailleurs, sur le terrain, au cours de nos visites, on fait bouger les lignes. Par exemple, dans les hôpitaux psychiatriques, il est fréquent, il n'est pas rare, que l'équipe qui visite fasse, l'équipe du contrôle général, fasse remarquer, explique à l'équipe soignante, voilà, il y a des dérives, regardez, là vous pratiquez de la contention à outrance, là regardez, mais parce qu'on voit des choses terribles aussi, des mineurs contentionnés. Vous savez ce que c'est la contention, hein, c'est être attaché sur une chaise ou sur un lit par 4 ou 5 points, c'est la pire des atteintes à la liberté d'aller et de venir. Ça s'emploie en dernière extrémité. Seulement, on peut se poser la question pourquoi il y a des endroits où ça ne se pratique pas du tout et pourquoi il y a des endroits où ça se pratique beaucoup. Alors, bien que je sais que les hôpitaux psychiatriques sont dans un état sinistré, vraiment, puisqu'on visite des services où il manque 30 à 40% dans l'équipe soignante, médecin psychiatre ou infirmier ou aide-soignant, eh bien, il y a des endroits où on pratique beaucoup la contention et d'autres pas du tout. Donc, on fait remarquer ça et les choses avancent sur place. Je dirais que les choses sont beaucoup plus compliquées à faire avancer quand on s'adresse à l'échelon du dessus, qui est l'échelon ministériel. Voilà pourquoi, moi, je garde espoir. Et j'ai l'espoir. D'ailleurs, si on n'a pas cet espoir, faut arrêter tout de suite, je pense.
Et d'ailleurs, donc, quand on parle des lieux de privation de liberté, on a tendance à penser aux prisons. Mais en fait, effectivement, oui. Il y a aussi les hôpitaux psychiatriques. Et est-ce qu'il y a aussi d'autres lieux ?
Alors oui, il y a les hôpitaux psychiatriques dans les services des soins sans consentement. C'est-à-dire, c'est tous les endroits où les gens sont placés par décision judiciaire ou administrative. Donc, les soins sans consentement, les services fermés, quoi, des HP, les centres de rétention administrative pour les étrangers sans papier, les centres éducatifs fermés pour les enfants qui ont commis des délits. C'est la dernière marche avant la prison. Les prisons pour mineurs, les prisons, tout simplement. Les locaux de garde à vue, police et gendarmerie. Les retours forcés des étrangers.
Les retours forcés qui se passent dans quel centre ?
Ça se passe dans les aéroports. On emmène les gens qui sont frappés d'une interdiction du territoire ou d'une obligation de quitter le territoire à l'aéroport ou au bateau, d'ailleurs.
Et vous avez déjà visité, enfin vous avez déjà accompagné des personnes ?
Moi non, mais mes équipes, oui.
D'accord.
Oui.
Parce que du coup, vous travaillez avec plusieurs personnes.
On est 30 permanents au contrôle et 30 vacataires. Et c'est toutes les professions qui s'occupent de ces lieux sont représentées.
D'accord.
Alors, on a des avocats, des magistrats administratifs ou judiciaires, on a des policiers, on a des directeurs de prison. Enfin, on appelle ça directeur de service pénitentiaire. On a des médecins, psychiatres ou pas. On a des juristes, mais toute une ribambelle de personnes qui ont donc sur ces lieux qu'on visite un regard assez d'expertise. Ils savent de quoi ils parlent.
Et c'est des personnes que vous avez vous-même recrutées ou qu'on vous a mis sous la main ?
Alors moi, quand je suis arrivée, il y a déjà une équipe qui est super, il faut le dire. Pour ce qui est du recrutement, moi, je suis une très mauvaise recruteuse. Très, très mauvaise. Et je crois que je l'ai prouvé. Et donc, on a décidé d'instaurer une espèce de jury de 3 personnes parmi nous, parmi mes collègues, qui sont chargés d'examiner les candidatures.
Et qui signale les lieux que vous partez visiter? Est-ce qu'on vous envoie des lettres, des courriers pour dénoncer un peu ce qui se passe?
On va dans les lieux, puisque c'est tous les mois, pendant 15 jours, 5 équipes partent dans différents lieux à visiter, à contrôler. Pour ça, on reçoit, vous savez, 3500 lettres par an, énormément de coups de fil. Je peux vous dire, j'ai tenu le standard une journée, c'est assez sportif. C'est assez dur de se retrouver à parler au téléphone avec des gens qui vous disent des trucs extrêmement durs. On a aussi, quand des endroits nous apparaissent particulièrement signalés, quand on a trop de signalements, trop de plaintes, là je me suis fait casser la figure, là il y a des violences entre détenus, là j'ai pas assez à manger, on y va. On va aussi dans les endroits où on n'est pas allé depuis un bon moment. Et puis, on sait aussi que quand on n'a pas du tout de nouvelles d'un lieu, c'est bizarre aussi. Voilà, donc c'est une espèce de méthode mi-empirique, mi-scientifique, je dirais. Voilà pourquoi on va dans les endroits.
Et vous disiez qu'il y a des personnes qui vous appellent. Est-ce que c'est les détenus eux-mêmes qui vous appellent pour vous signaler ce qui se passe dans leur prison?
La majorité des gens qui nous saisissent, ce sont des détenus. Ou alors des associations dans les centres de rétention, ou alors des proches ou des malades en soins sans consentement. Mais l'immense majorité sont des détenus, oui.
Donc je le disais tout à l'heure, la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits humains en raison des conditions de détention terribles. Et pourtant, on enregistre un nombre de détenus qui est en croissance constamment. Pourquoi? Est-ce que c'est une volonté sociétale d'enfermer les gens en France?
Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'on vit dans une société parmi un peuple qui crie vengeance en permanence. Ok, mais de la part des gouvernants et de ceux qui sont aux responsabilités, je pense qu'il faudrait tenir un discours plus mesuré et dire la vengeance, soit, mais ça n'est pas un bon calcul, la vengeance. La vengeance, ça satisfait sur le moment notre goût du sang qui date depuis l'Antiquité, hein, depuis qu'on existe. Mais justement, on a été civilisés, on est civilisés. Et donc, on devrait réfléchir plus loin que ça et tenir ce discours qui fait qu'il est meilleur pour la société que les gens, peut-être, soient punis, ok, mais qu'on voit un peu plus loin et qu'on se dise qu'il faut qu'ils deviennent meilleurs quand ils sont enfermés. Et en prison, il faudrait que la vie en prison, c'est d'ailleurs la loi, normalement, se rapproche le plus possible de la vie à l'extérieur. Or, ça n'est pas le cas. À l'extérieur, on ne vit pas entassé dans 4 mètres carrés, et je pèse mes mots, parce que quand j'étais journaliste, j'écrivais, ils s'entassent dans 9 mètres carrés, la taille d'une cellule. Mais je n'étais pas entrée dans les cellules. Et quand je suis entrée dans les cellules, j'ai vu, horrifiée, qu'en fait, ils s'entassent dans 4 mètres carrés, parce qu'il faut enlever l'emprise des lits superposés, l'emprise du coin toilette, l'emprise de la table. Et en général, il reste moins d'un mètre carré d'espace vital par personne et par être humain. Je ne pense pas que ce soit des conditions, quand on reste enfermé comme ça, 21h ou 22h sur 24, dans une cellule, où grouillent très souvent des cafards, où les punaises de lit vous attaquent la peau, où quand on jette un regard dans la cour, on voit des rats. Je ne pense pas que ce soit idéal pour se réinsérer. Je ne pense pas que ce soit idéal... la violence qui règne, parce que, par exemple, à la prison de Gradignan, c'est la première fois que j'entendais ça de la part de détenus qui m'ont dit « les surveillants, ils pètent les plombs, mais c'est normal. Il y a des violences, mais c'est normal, on est trop. » Et les surveillants qui nous disaient « Moi, détenu, je refuserais de rentrer dans ces cellules. » Donc, on embarque tous ces gens, dans surveillants, agents pénitentiaires et détenus, dans la même horrible vie qui ne permet pas d'être meilleur dehors. Par exemple, il y a ce mythe. Nous, on milite, par exemple, au contrôle général pour que les gens, les détenus, aient accès à Internet. Parce que dehors, il y a bien Internet, non? Alors, il y a cette énorme hypocrisie qui fait que à peu près tous les détenus ont des portables, mais que l'Internet leur est interdit, le portable leur est interdit. Vous savez qu'il y a eu... c'est une histoire qui court, mais qui est vraie. Ce n'est pas une légende. Il y a eu... une grande rafle de portables dans je ne sais plus quelle prison. Ils ont ramassé, je ne sais pas, 1000 portables, 800 portables. Et dans la journée, ils ont eu des coups de fil de juges d'instruction qui hurlaient « Malheureux, rendez le portable de machin, rendez le portable de truc, ils sont sur écoute. » Vous voyez que c'est encore le degré au-dessus de l'hypocrisie.
Vous dites que il faudrait que dans les prisons, ils aient un peu la même vie qu'à l'extérieur.
Ça se rapproche. Ouais. Qu'au moins, ce ne soit pas un temps mort. Qu'au moins, ils apprennent quelque chose. Qu'au moins, quand ils sortent, ils puissent se dire, j'ai passé du temps là-dedans, d'accord, mais au moins, j'ai appris, je sais pas, à cuisiner, j'ai appris à lire. Vous savez, il y a 17% d'analphabètes en prison. Je crois pas qu'on dit analphabète, on dit illettré, parce que les mots sont soigneusement choisis maintenant pour que les choses apparaissent plus douces et que tout soit aplani. Moi, je suis contre ce langage, doucereux. Donc, en tout cas, analphabètes ou illettrés, ils sont 17%. Il y a une remarquable étude de Emmaüs et du Secours catholique qui est sortie à la fin de l'année dernière et qui disait « prison, le dernier barreau de l'échelle sociale ». C'est ce que vous disent les magistrats d'ailleurs. Quand les prévenus arrivent dans le box, en fait, on les charge de réparer quelque chose que la société n'a pas été fichue de réparer durant toutes les années avant. Ça ne se passe pas comme ça. Et la prison, moins que tout autre, dans l'état où elle est actuellement, peut réparer. Mais au moins, s'ils pouvaient avoir accès à un travail, à apprendre, à une formation. Parce que c'est très dommage, parce que depuis que j'étais éducatrice à la Pénite, les choses ont beaucoup changé. La prison s'est remarquablement ouverte sur l'extérieur. Il y a beaucoup d'intervenants qui viennent. Si vous voulez y aller, je vous engage à y aller, à proposer des ateliers d'écriture, des ateliers de discussion, des ateliers... Je sais pas, on apprend plein de choses, mais malheureusement, ça n'est pas accessible à tout le monde, parce qu'il y a trop de monde dans les maisons d'arrêt, là où se purgent les courtes peines, et là où sont enfermés les présumés innocents, que sont les détenus provisoires.
C'est-à-dire qu'il y a des listes d'attente, par exemple, pour pouvoir accéder aux ateliers
Énormes. Mmh. Et sans certitude du tout d'y accéder. D'autant plus que le personnel des prisons est contingenté selon le nombre de places théoriques et non selon le nombre de résidents de la prison. Ce qui fait que, je vous donne un exemple, à Toulouse 6, quand la prison a ouvert, ils étaient un surveillant pour 50 détenus. Aujourd'hui, ils sont un pour 150. D'abord, je voudrais savoir qui d'entre nous accepterait de voir sa tâche multipliée par 3. Ensuite, qui d'entre nous le vivrait sans s'énerver? Et c'est quand même assez stupide. Il en est de même du personnel médical et de la taille des salles de réunion, des salles de formation et des salles d'attente chez le médecin, des salles d'examen. Donc tout ça est profondément hypocrite. On vous dit, il va être en prison, il va être retiré de la société 3 mois, 6 mois. Je parle des maisons d'arrêt, hein, des courtes peines. Courtes peines jusqu'à 2 ans. Bon, ces gens, ils vont sortir. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Ils ne sont pas en prison à vie. Ils vont sortir. Donc pourquoi est-ce qu'on empêche, est-ce qu'on ne fait pas en sorte qu'ils sortent meilleurs avec un bagage, au lieu d'être lâchés sur le trottoir exactement dans l'état où ils sont entrés, et même pire, parce que vous avez passé 6 mois, 1 an à vous exaspérer dans votre cellule. Je trouve ça mais nullissime. Et encore une fois, hypocrite. Et puis je trouve que l'État se débarrasse à bon compte des gens que personne ne veut voir, que sont les détenus, les retenus et les étrangers retenus, ou les fous dans les hôpitaux psychiatriques, parce que ce sont des endroits où ils ne sont pas traités comme ils se devraient. Et je trouve que le personnel également n'est pas traité comme il se devrait. Et ça me met en colère de voir que l'État se débarrasse de tout ça. Allez, débrouillez-vous, sans faire rien pour y remédier.
Et Emmanuel Macron avait dit qu'il prendrait des décisions par rapport à ce qui se passe justement dans ces lieux.
Il l'avait dit, effectivement. Mais c'est comme en amour, hein. Dire c'est dire, faut croire qu'aux actes. Or, il l'a dit dans un très très beau discours d'ailleurs, en 2018, qu'il a prononcé devant l'École nationale de l'administration pénitentiaire.
Nous devons donc changer ce système qui ne protège plus suffisamment, qui mine le personnel pénitentiaire, et empêche ceux qui le pourraient de se réinsérer et de sortir de la délinquance. Ce ne sont pas les acteurs qui sont en cause. Ils sont plutôt les acteurs involontaires d'un système qui ne marche plus et auquel, ensemble, nous avons résolu de mettre un terme.
Il a dit « je veillerai à ce qu'il y ait des expériences de régulation carcérale ». Régulation carcérale, ça veut dire pas plus de détenus qu'il n'y a de place. Et il y a des tas de gens qui n'ont rien à faire en prison. Mais depuis, il n'a pas fait grand-chose pour que ces gens qui n'ont rien à faire en prison sortent. Il n'a pas fait grand-chose pour qu'il y ait de la régulation carcérale. Et au contraire, puisque quand je parle de régulation carcérale, on me répond non, ça ferait monter le Front National.
Et est-ce qu'on pourrait
qui, par ailleurs, monte très bien tout seul.
Oui. Est-ce qu'on pourrait s'inspirer de nos voisins européens, par exemple, en ce qui concerne les prisons?
On pourrait s'inspirer de l'Allemagne, par exemple, qui a 20 millions d'habitants de plus que nous et 13 à 14 000 détenus de moins. Alors, je sais qu'il y a un petit problème en Allemagne parce qu'on retrouve beaucoup de détenus atteints de troubles psychiatriques dans des hôpitaux médico-légaux qui ne sont pas très clean, où les gens rentrent sans savoir quand ils sortent. Mais enfin, en tout cas, pour ce qui est des prisons, elles sont extrêmement correctes. Je les ai visitées, c'est un par cellule, 70% des détenus au travail, qu'en France, c'est 28%, 25% qui va au travail des détenus. C'est dire toute la différence. Pourquoi on ne glorifie pas les entreprises qui donnent du travail en prison? Pourquoi ces mêmes entreprises, et souvent l'industrie du luxe, se cachent et non se vantent de donner du travail aux détenus? C'est pas normal. Moi, je serais eux, je dirais, regardez, je me redonnerais une image plus sociale. Alors, peut-être ils ont honte de faire travailler les détenus. Peut-être ils ont honte de dire à leurs clientes, bah, vos tubes de crème sont emballés par des détenus. Ou alors, peut-être ils ont honte du faible salaire qu'ils donnent. Je ne sais pas, mais je trouve ça regrettable. Vous voyez, c'est encore un pays d'immobilisme total pour certains sujets et d'hypocrisie. Et c'est pas que le gouvernement, vous voyez, quand je vous cite l'exemple de ces grandes sociétés qui donnent du travail aux détenus en cachette.
Et comment on pourrait remédier à ce fléau, justement, d'envoyer autant de personnes en prison parce qu'on n'a pas d'autre solution, en fait, que de les envoyer en prison?
Mais il y a plein d'autres solutions. Je vous donne ce qu'on appelle, par exemple, le placement extérieur, qui est une modalité d'effectuer sa peine. C'est-à-dire, il vous reste un an à faire, vous avez fait une longue peine, il vous reste un an à faire. Eh bien, vous sortez dans, par exemple, les fermes Emmaüs qui hébergent 12 personnes, 12 détenus en fin de peine, qui vont là, qui apprennent le métier, souvent des métiers de la terre, le maraîchage, l'élevage, la fabrication du fromage. Moi, je suis allée dans une de ces fermes pour les femmes, à Baudonne, près de Bayonne, qui est tenue par un ancien détenu mythique, un Basque, Gabi Muesca, qui est un ami. Et j'ai visité sa ferme où des femmes détenues apprennent le maraîchage, vendent sur les marchés la production de la ferme. Bah, c'est quand même nettement plus intelligent que de terminer sa peine en prison. Et je signale, c'est pas de la blague, parce que quand quelqu'un s'échappe de ses fermes, il est déclaré évadé. Mais il n'y a que 900 personnes qui sont placées à l'extérieur par an en France. C'est très très peu par rapport aux besoins. Il y a le travail d'intérêt général, vous accomplissez un travail gratuit pour la communauté. Il y a la libération conditionnelle, on vous libère avant votre fin de peine, mais vous êtes sous surveillance. Il y a le sursis probatoire, vous êtes sous surveillance et contrôle, ce que je faisais avant, des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc c'est une peine effectuée à l'extérieur.
Et le bracelet électronique?
Alors le bracelet électronique, il monte en flèche. C'est vrai. On a constaté avec tristesse qu'il mordait beaucoup sur la liberté, c'est-à-dire qu'il était infligé à des gens qui, de toute façon, ne seraient pas allés en prison. Mais il est vrai que, moi, je salue maintenant toujours Patrick Balkany, grâce à qui on a vu que le bracelet électronique, c'était pas de la blague, parce que quand il a commencé à débloquer, à ne pas suivre ce que lui imposait le bracelet électronique, c'est-à-dire s'éloigner de plus de tant de mètres, de centaines de mètres de sa maison, ou faire le dingue la nuit, eh bien, on retourne en prison.
Et vous effectuez donc des visites régulières dans différents lieux d'enfermement. De quel genre de situation vous avez été témoin? Quels cas vous ont choqué, vous ont marqué?
Alors, plusieurs choses. Ce qui m'a horriblement marqué, comme je vous le dis, c'est la situation des détenus. Parce qu'il est anormal d'enfermer trois personnes dans un si petit espace en espérant qu'on s'en sorte tous bien. On va tous s'en sortir très mal. Je pense que c'est un très mauvais calcul, de très court terme. C'est un calcul politique que je juge minable. Quand on a le courage immense d'affronter la rue et l'opinion en ce qui concerne la réforme des retraites, je ne vois pas pourquoi on n'a pas le petit courage d'instiller de la régulation carcérale. Alors voilà, il y a ça. Il y a la situation des étrangers dans les centres de rétention, où vraiment les gens sont parqués, il n'y a pas d'autre mot, dans des lieux qui étaient faits, vous savez, à l'origine pour 6 à 10 jours de retenue et qui maintenant, la rétention peut s'étendre jusqu'à 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. Ça paraît peu, mais c'est beaucoup parce que c'est des gens qui, au fond, ont cru à un avenir meilleur, sont venus en France, ont joué leur vie pour venir, ont traversé 1000 morts et les océans et 1000 dangers, arrivent là et puis là, c'est la fin du voyage et ils ne savent pas à quel moment on va venir les chercher pour les prendre et les ramener dans leur pays. La vérité, c'est que très peu repartent et que donc on en vient à se demander pourquoi on les retient. Est-ce que la base légale, là je m'adresse aux juristes, puisque les gens doivent être retenus dans ces lieux que le temps strictement nécessaire aux préparatifs de leur départ. Mais il n'y a pas de départ. À quoi ça sert ? Je signale en plus que ça coûte très cher, comme un détenu. Un détenu coûte 110 euros par jour et par personne. Tout ça pourquoi ? Pour fabriquer de la récidive, comme me l'a très intelligemment écrit un détenu. Pourquoi ? Les retenus aussi, ça coûte extrêmement cher. Pourquoi ? Pourquoi on les enferme comme ça s'ils ne repartent pas ? Puisque les pays d'origine ne sont pas dingues. Hein. Pourquoi ils reprendraient des gens d'ailleurs qui, maintenant, de plus en plus dans les centres de rétention, on voit des sortants de prison ? Pourquoi ils les reprendraient ? Puisqu'il faut un laissez-passer. Si les gens n'ont pas de papier pour repartir dans son pays. Là, j'ai vu un monsieur tunisien, vous parlez de ce qui m'a frappé, qui pleurait en permanence. Et ça nous a beaucoup inquiétés parce qu'il était... C'était épouvantable quoi, de le voir dans cet état. Un très jeune homme, il s'était, sans se rendre compte des conséquences de ses actes, déclaré algérien en arrivant en France et en demandant l'asile. Et puis il avait déchiré ses papiers tunisiens. Ben maintenant, je ne sais pas comment on va faire pour le renvoyer en Tunisie, où il veut absolument rentrer parce que son père est en train d'y mourir. Il sanglotait en permanence. Je ne sais pas ce qui va arriver à ce monsieur. Je ne sais pas si on réussira... Pour une fois, avec sa volonté, il veut absolument rentrer. Je ne sais pas si la Tunisie va le reprendre. Oui, ça m'a frappé qu'il soit parqué là, pleurer. Ça faisait peur. Puis il y a des gens en rétention que j'ai vus pendant le Covid. Il n'y avait pas de gel, par exemple, au centre de rétention. J'ai demandé pourquoi. On m'a dit, ils le boivent. Il n'y avait pas de savon non plus. Fallait, pour se laver les mains, aller dans sa chambre, chercher le savon, le ramener dans les toilettes communes où il n'y a pas de savon, se laver les mains et rapporter son savon dans sa salle. Vous croyez que ça incite à de l'hygiène et à ne pas se refiler le Covid ? J'ai traversé des salles où 50 personnes se frôlaient sans masque, parquées là. Ce qui m'a énormément frappée aussi, c'est pendant la même période du Covid, et aujourd'hui c'est la même chose, les locaux de garde à vue. Qui sont particulièrement ignobles. Moi, je suis devenue experte, comme mes collègues, à renifler les murs dans les cellules de garde à vue pour savoir où les gens pissent, parce qu'il n'y a pas de chasse d'eau. Elle s'active souvent de l'extérieur. Ou alors, elle est cassée. Je suis rentrée dans des cellules de garde à vue. Je me suis assise parmi 3 hommes dans une odeur, mais immonde, parce que la chasse d'eau ne marchait pas. Je peux vous dire que vous asseyez en vous demandant, « Bon, je vais choper quoi, là ?» Comme en prison, des punaises de lit, la tuberculose qui revient en force. Je sais pas. Et on laisse les gens là, s'asseoir, dormir, sur le matelas des précédents qui n'est pas désinfecté. La couverture du précédent et des précédents qui ne sont pas désinfectés, qui sont désinfectés tous les 2 mois, même en période Covid, vous vous rendez compte ? Oui, ça frappe. Ça frappe aussi d'aller dans les centres éducatifs fermés, où sont enfermés les enfants, parce que j'ai arrêté de dire mineur pour adopter la novlangue. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué que mineur, maintenant, c'est synonyme de danger. Vous ne dites pas « j'emmène mon mineur à l'école », vous dites « j'emmène mon gosse ». Voilà, quand il s'agit de ces enfants-là, on dit mineur. Alors, c'est les mineurs délinquants, les mineurs non accompagnés, les mineurs étrangers. Tout ça, c'est certainement des enfants très dangereux. Alors, ceux qui arrivent en centre éducatif fermé, l'immense majorité sont passés par l'aide sociale à l'enfance, qui non seulement n'a pas su réparer les dégâts, mais les a en général aggravés. Les enfants placés vivent des situations ignobles, qu'on lit dans les journaux. Si vous êtes curieuse de ça, vous verrez les petites jeunes filles qui sont placées dans les foyers de l'enfance et qui sont envoyées sur le trottoir par des petits proxénètes qui les attendent à l'entrée des foyers. Ou les enfants qui sont placés dans des familles d'accueil qui sont maltraités. Tout ça parce que ces lieux ne sont peu ou pas contrôlés. On parle beaucoup des EHPAD, le scandale des EHPAD, ils ne sont pas contrôlés, mais c'est un scandale également en ce qui concerne les enfants. Je signale que ces enfants, c'est nos enfants, et c'est l'avenir de toute une société. Donc tout ça, c'est des calculs à la petite semaine de ne pas s'occuper de toute cette frange de la société qui est considérée comme dangereuse, mais dont on s'occupe mal, tout en dépensant pour ça un argent, un pognon de dingue. C'est ça l'expression.
Est-ce qu'il faudrait pointer du doigt aussi le manque de personnel dans ces lieux ?
Bien entendu. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand une prison est contingentée pour son personnel selon son nombre de places et non selon son nombre d'habitants, c'est totalement aberrant. Mais il faudrait aussi vider ces lieux du trop-plein, si je peux m'exprimer ainsi en parlant d'être humain. Bien sûr. D'ailleurs, on a de cesse de le faire savoir, remonter. Et c'est là que je vous dis que quand je garde espoir de faire changer les choses parce que je m'adresse à la société tout entière, bah grâce à vous, grâce aux journalistes, pour dire ce qui ne va pas, ce qui déraille complètement. Parce que quand je m'adresse au ministre, je me rends bien compte que je me heurte à un mur. Ils savent que ça ne va pas. Les hôpitaux psychiatriques, c'est catastrophique. Je ne sais pas pourquoi la spécialité de psychiatre n'est plus choisie. Les psychiatres hospitaliers fuient le service public. On y engage ce qu'on appelle des mercenaires qui remplacent leurs confrères manquants et qui sont payés 2-3 fois plus cher. Ça crée une mauvaise ambiance, vous en doutez, dans les services. Et tout ça est su. Il y a des lits en psychiatrie qui ont été fermés. C'est pour ça qu'il y a tant de monde de fous en prison. Vous savez, j'ai reçu la lettre d'un détenu qui m'a marqué au-delà du réel, parce que j'y pense, mais tout le temps. Il nous décrit une scène qu'ils ont été dans leur cellule, est arrivé un homme atteint de troubles graves, parce qu'il crie du matin au soir, enfin très souvent. Donc ces co-détenus, ils sont 3 dans la cellule avec lui, enfin ils sont, oui, 3 en tout. Ils n'en peuvent plus. Et un jour, ce fou, le surveillant, est venu le chercher pour l'emmener, je ne sais pas, à la douche, à la promenade, peut-être au parloir. Et puis quand les surveillants l'ont ramené, les co-détenus ont poussé l'homme. On n'en veut plus. Les surveillants ont dit, vous allez le reprendre. Ils ont dit, non, on n'en veut plus. Et comme ça, pendant un quart d'heure, cet homme, fou déjà, a été traité comme un ballon. Et le détenu disait, et à la fin, les surveillants l'ont poussé violemment. Ils ont gagné, ils ont refermé vite la porte. Et après, il s'est creusé la tête et il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, qu'est-ce qu'il a fait ? Mais est-ce que c'est de leur faute s'ils sont mis dans cette situation épouvantable d'avoir à traiter un être humain, comme je viens de vous le raconter ? Ouais, toutes ces situations, c'est ignoble de laisser faire ces choses.
Et quand on a aussi préparé cette émission, vous m'avez raconté qu'après certaines visites, vous étiez revenu dans ces mêmes lieux et vous aviez constaté un changement. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Est-ce que vous avez réussi à redonner, on va dire... Parce qu'il y a aussi une sorte de manque d'humanité, non ? Qui se perd un peu par le personnel de ces prisons.
Non, je dirais pas, c'est pas... Au contraire, ce sont des sentiments assez humains qui agitent tout le monde. L'énervement, on connaît bien. La rage, on connaît. Oui, c'est qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on perd un peu le sens de ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est sûr. La scène que je viens de vous raconter, c'est quand même une horreur. Mais cette humanité, elle se perd parce qu'on met les gens dans la situation de la perdre. Et c'est pour ça que je suis très contente quand on arrive dans des endroits où on a... Par exemple, là, je suis retournée avec des collègues à Bédenac. C'est un centre de détention où l'équipe du CGLPL avait découvert 17 détenus, vieux, malades, obèses, mourants. Certains sont morts depuis. Et qui étaient laissés totalement à l'abandon. Les aides-soignantes passaient une fois par semaine, ce qui fait que ceux qui étaient incontinents n'étaient pas changés pendant une semaine. La plupart avaient besoin d'assistance pour tous les gestes de la vie quotidienne, une assistance qu'ils n'avaient pas. Enfin, les co-détenus leur servaient d'assistants. C'était un spectacle épouvantable. Mes collègues sont revenus de là effondrés. Et puis, j'y suis retournée il y a quelques semaines Et tout avait changé. Après, on avait fait des recommandations en urgence. Et là, ça avait, ce qui est le plus grave pour nous, c'est-à-dire ça paraît au journal officiel très vite après la visite. Et puis, on fait assez de tintamarre autour. Donc là, ça avait claqué un scandale quand même. Et ça avait, tout avait changé dans le lieu. L'aide-soignante vient tous les jours. Il y a un médecin à demeure. Il y a ce qu'on appelle un auxiliaire détenu qui s'occupe de tenir le lieu propre, beau. Il y a des infirmières. Franchement, ça faisait plaisir. Je ne dis pas c'est fragile parce que ça repose sur la volonté de quelques personnes, mais ça fait plaisir. On se dit, ouf. Il y a aussi des hôpitaux psychiatriques où, quand on retourne, les choses ont changé. Sur la prison, oui, comme je vous le dis, les choses changent. La chose qui ne change absolument pas, c'est les centres de rétention. L'indifférence et l'inertie du ministre de l'Intérieur est totale. De même que sur les locaux de garde à vue, où il nie la réalité tranquillement. Voilà, c'est... Alors oui, les choses changent doucement. Alors, il y a des choses qui changent même dans les prisons, dans la vie quotidienne des détenus. Ça paraît peu quand on le dit comme ça. Les repas meilleurs, les ci, les ça, les promenades un peu plus aménagées. Ça paraît peu quand on le dit, ça paraît dérisoire, mais dans la vie quotidienne d'un détenu, c'est pas mal. Moi, ce que j'espère, c'est secouer les choses jusqu'à une forme de régulation carcérale, oui. J'espère que dans les centres de rétention, on va s'apercevoir que ce n'est pas possible de traiter des gens comme ça. J'aimerais bien que nos compatriotes français, j'aimerais bien voir nos têtes, si les Français étaient traités de cette manière à l'étranger.
Et ce sont toujours des visites, c'est pas des visites préparées que vous faites, c'est toujours des visites inopinées.
Oui, sauf dans certains hôpitaux où on sait que la situation est telle que c'est pas la peine de rajouter de l'amertume et du désordre au désordre.
La population carcérale, elle est composée en très grande majorité d'hommes. Selon les données du ministère de la Justice, les femmes représentent 3,2%, soit 2286 femmes. Comment on explique cet énorme écart, si c'est possible de l'expliquer?
Moi, j'ai une explication toute trouvée. Hein. C'est que nous, les femmes, on fout moins la merde que les hommes. Ça, je le pense. Parce que rien ne peut expliquer un tel gap. On va me dire, oui, parce qu'il y a eu des thèses, des mémoires, des recherches conduites là-dessus, parce que c'est intriguant, c'est vrai. Alors, il y a le biais, les magistrats, les policiers sont plus cléments avec les femmes. Mais à ce point, c'est pas possible. Vous vous rendez compte, la différence énorme. Il y a des gens qui disent, les femmes sont plus hypocrites, elles s'en sortent mieux, elles prennent des biais, elles pleurnichent à la barre. Bon, moi, je veux bien, mais rien n'explique ce 3,2. C'est entre 3,2 et 3,5 de la population carcérale. C'est pas possible. Ensuite, je vais vous dire quelque chose. On est bien mal récompensé de se tenir mieux parce qu'on est carrément les oubliés de la prison. Hein. Les quartiers femmes, c'est pas marrant. Parce que quand les femmes passent, il faut qu'elles passent. Les hommes sont tous enfermés. Quand elles passent dans les coursives, je parle pas dans les prisons réservées aux femmes, mais non, les quartiers femmes. Elles ont moins accès aux activités que les hommes, moins accès à tout.
Et pourquoi?
À cause de cette particularité qu'il faut tout fermer quand elles passent, pour pas qu'elles croisent les hommes.
Je voudrais revenir aussi sur la polémique de l'été dernier, suite à la publication sur Internet d'une vidéo appelée Koh-Lantès, dans laquelle on voit des détenus de la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, participer à des épreuves diverses et variées, notamment du karting. Un des détenus filmés possédait un casier judiciaire lourd. Et puis plusieurs personnes se sont dites indignées par ces images, critiquant le fait que voilà, ces activités étaient payées par nos impôts. Et vous avez rapidement réagi en expliquant que la journée avait entièrement été payée par la société de production Koh-Lantès, justement. Et au-delà de ça, pourquoi vous soutenez que cette polémique, elle n'a pas lieu d'être?
Je l'ai trouvée, encore une fois, je répète le mot, d'une hypocrisie crasse. Parce qu'elle est venue de la part d'élus de la République qui connaissent parfaitement la situation des prisons, qui savent très bien, surtout Fresnes. Fresnes, c'est une des pires prisons de France. Une des plus dures, où les conditions de détention sont les plus lamentables. J'ai trouvé que c'était totalement irresponsable d'enclencher cette polémique. Dire qu'un des détenus avait un casier judiciaire lourd, ça c'est la meilleure que j'ai jamais entendue. Quelle surprise vraiment, en prison. Eh oui, Il y a des gars qui ont un casier, mais c'est dingue, non? C'est stupéfiant. Alors voilà. Ensuite, oser dire que c'est le Club Med, de la prison 4 étoiles, c'est dégueulasse. Et voilà, or la loi prévoit que les détenus doivent avoir des distractions. Et simplement, encore une fois, ça se passe tout le temps en France, dans plein de prisons. Il n'y a pas que les cartes qui rentrent en prison, hein. Il y a des animaux qui rentrent en prison. Il y a des chiens, des chats, il y a des chevaux qui rentrent en prison. Il y a des activités telles la boxe, l'escalade, il y a des trucs de VTT. Il y a... Parce que la loi prévoit, pour la réinsertion justement, que les détenus aient accès à des activités. Et puis on voyait des détenus rire, figurez-vous. Ça a été insupportable à certains, que les détenus puissent rire. Non, parce qu'il faudrait que les détenus... finalement, soient vêtus d'une robe de bure et passent leur vie à se flageller et à défiler en remuant la tête et en récitant des prières, certainement. Non. Oui, les gens ont le droit de rire. Plus ils riaient avec les surveillants, ça faisait plaisir à voir. Et tout ça s'est terminé dans le marasme créé par cette polémique, oui, totalement inutile, et qui, comme l'imbécile te montre le carte à freine, l'imbécile regarde le carte à Fresne et les autres savent que Fresne est surpeuplé à, je sais pas, 200%, je pense, et dans des conditions, la troisième division, je crois que c'est un des endroits où, franchement, j'aimerais bien que ces élus y passent une journée pour voir.
En janvier 2023, vous êtes devenue marraine de l'EFB, l'école de formation professionnelle des barreaux.
L'Île-de-France. Oui.
Quel va être votre rôle au sein de cette école et qu'est-ce que vous souhaitez transmettre aux avocats de demain?
Alors, mes chers filleuls, je suis allée les voir la semaine dernière, justement pour les inciter et leur expliquer que même s'ils ne se destinent pas du tout aux droits des enfermés, s'ils se destinent aux droits des affaires, aux droits pénals autres, aux droits pénals des affaires, aux droits, même aux droits publics, aux droits, je ne sais pas, il y a... même s'ils sont travaillistes, au droit du travail, peu importe. J'aimerais qu'ils gardent toujours une petite place pour les enfermés, les captifs, et pour ceux qui défilent aux comparutions immédiates. Je leur explique que d'abord, c'est une excellente école. La comparution immédiate, c'est une excellente école. Simplement, c'est vrai qu'il faut être formé pour aller y défendre les gens, parce que c'est ultra rapide, donc il faut être très vif. Et avoir dans la tête, expliquer le grand pénaliste, explique toujours le grand pénaliste Henri Leclerc. Il faut avoir une checklist dans la tête. Ça, c'est les conditions d'interpellation, ça, c'est ça, ça, c'est ça, 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 ça va, ça, ça va. Allez, ça, ça va, alors je plaide autre chose. Bon, il faut aller très vite. Voilà ce que je voudrais, ce qu'on discute bien ensemble. Moi, j'étais vraiment ravie d'être choisie pour être leur marraine. Et voilà, je vais passer l'année à aller les voir régulièrement pour qu'on discute de tout ça et que je sois fière. Je suis fière déjà, mais j'aimerais bien être fière d'eux après, quand je les verrai sur les bancs des comparutions immédiates ou dans les prisons. Par exemple, au droit de la psychiatrie, qui est un droit très particulier. Vous savez que maintenant, le juge des libertés et de la détention a un regard à la fois sur le placement en soins sans consentement et sur l'isolement et la contention dont on parlait tout à l'heure, sur les mesures de contention et d'isolement. Et donc, voilà, je voudrais bien que mes filles se forment aussi à ce droit particulier.
Merci beaucoup, Dominique Simoneau, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi notre émission sur QG et à très bientôt.